Il est 19h, vous écoutez Jusqu'à Nouvel Ordre sur le 93.9 FM, vous êtes sur Radio Campus Paris.
Dès lundi et jusqu'à Nouvel Ordre.
Quel silence, hein.
Il veut nous guérir du coronavirus à travers l'écran.
Il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, comme les grippes, comme d'habitude, rien. Voilà.
Ça va?
Oui, très bien.
Petit coup de coude, même à distance maintenant.
Je suis plutôt namasté, moi.
Ça va alors?
J'ai donc décidé, jusqu'à Nouvel Ordre.
Je veux dire, la vague arrive, elle va arriver ici et ça va secouer sérieusement.
Aujourd'hui, on sait très bien que la situation sanitaire, elle est grave.
À partir de ce lundi, jusqu'à Nouvel Ordre.
Jusqu'à Nouvel Ordre, le journal de bord et des débordements des bénévoles de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi à 19h.
Bonjour à toi, cher auditeur. Bilan de l'année 2020, nul, zéro remboursé, on en convient. Mais la magie de 2020, quand même, c'est de pouvoir faire de la radio à distance et de pouvoir monter l'intégralité de ton émission loin de ta ville d'origine. Et ça, c'est quand même un petit luxe non négligeable. Alors voilà, moi, pendant le confinement, je suis à Bruxelles. Et en Belgique, malgré un confinement plus doux qu'à Paris, bien que la tendance aille à l'inverse pour les fêtes de fin d'année, eh bien certains n'ont quand même pas trop supporté les règles de distanciation physique et le port du masque. Je pense notamment à l'eurodéputé Joseph Sager, un membre du parti conservateur du président hongrois Viktor Orban, qui s'est livré à une véritable partie fine en plein cœur de la capitale belge ce week-end. Intitulée « Lockdown partout », en plein cœur de Bruxelles, la soirée accueille une vingtaine de personnes, dont notre homme, qui tente de s'enfuir par une gouttière lorsque la police intervient pour mettre fin à la soirée. Il se blesse les mains, il est en sang, de la drogue est retrouvée dans son sac, bref, pas de peau, mais là ça fait quand même beaucoup. C'est finalement lorsqu'il sera conduit à son domicile par les forces de l'ordre pour procéder à une identification que celui-ci montre son passeport diplomatique. L'histoire fait rire en même temps que grincer des dents, puisqu'il est protégé par la loi. Sur le moment, le mandataire européen n'a pas reçu de PV pour non-respect des mesures liées à la pandémie de Covid-19, et ça fait encore plus grincer des dents quand on sait que certaines personnes en France se font tabasser et ouvrir le crâne pour le seul motif du non-port du masque. Il aura tout de même reçu un procès-verbal pour infraction relevant de la législation en matière de stupéfiants, et il sera quand même sous le coup de poursuites pénales lorsque son immunité parlementaire sera levée après qu'il a annoncé sa démission ce week-end. Moralité, chez les eurodéputés aussi, le confinement, ça tape sur le système.
Jusqu'à Nouvel Ordre, du lundi au jeudi, à 19h, sur Radio Campus Paris.
Au programme de ce soir, nous allons parler de la nécessité du rôle des associations pendant la période de crise. Endossent-elles un rôle dont l'État ne se porte plus garant ? Pour aborder ce sujet, nous avons interviewé Claude Ballan, le président de la Fédération française des banques alimentaires, et Pierre Joty, membre de l'association Utopia 56, venant en aide aux exilés et aux migrants. Cette émission est également ponctuée par la chronique d'Alexandra sur les lentilles intelligentes, et Léa est partie en reportage. Elle nous parlera de la marche des libertés qui a eu lieu à Paris samedi dernier. Restez branchés avec nous jusqu'à nouvel ordre, sortez les cornflakes et la bière, c'est l'heure de l'Happy Hour. En France, 9,3 millions de personnes étaient considérées comme pauvres en 2018, d'après le dernier rapport de l'INSEE paru au mois de septembre 2020. Aujourd'hui, les associations humanitaires se démènent plus que jamais pour venir en aide aux plus démunis, en dépit du virus. Pour en parler aujourd'hui, Claude Ballan, président de la Fédération française des banques alimentaires, et Pierre Joty, membre de l'association Utopia 56, une association d'aide aux exilés et aux migrants. Deux interviews réalisées par Nolwenn et Glenn, confinés.
Bonjour Claude Ballan.
Bonjour.
Vous êtes le président du réseau des banques alimentaires, un réseau de 79 banques alimentaires en France. En quoi consiste votre rôle ?
Alors, mon rôle en tant que président de la Fédération française des banques alimentaires, c'est d'abord de négocier au niveau des instances européennes et au niveau des ministères français pour obtenir des crédits. C'est négocier avec des grands donateurs, des grandes entreprises, par exemple comme Danone, Pomona, etc. Et mon rôle, c'est aussi d'essayer de coordonner les 79 banques alimentaires, de leur apporter un appui, de leur apporter des conseils et oui, de les soutenir
Est-ce que vous êtes plus sollicité en ces temps de pandémie sanitaire aujourd'hui? Est-ce que vous avez des chiffres, des ordres de grandeur à nous donner pour comprendre la situation des Français en situation de précarité?
Oui, il a été fait plus appel aux banques alimentaires. Je rappelle que les banques alimentaires, en règle générale, ne distribuent pas directement aux personnes qui en ont besoin, mais distribuent à 5 400 associations qui elles-mêmes redistribuent directement aux personnes dans le besoin. Les 5 400 associations, c'est des épiceries solidaires, des épiceries sociales, des centres communaux d'action sociale, ou alors des associations beaucoup plus connues comme ATD Quart Monde, le Secours catholique, Rouge. Donc, depuis le 18 mars 2020, date du début du premier confinement, nos ayants droit, c'est-à-dire les personnes à qui on distribue de l'aide, ont augmenté en moyenne de 20 à 25% en moyenne. Et nos stocks ont baissé 23% depuis donc le 18 mars. Donc oui, nous avons plus de gens à aider qu'avant.
Donc, vous mentionnez que vos stocks ont diminué depuis mars. Les banques alimentaires, enfin vous luttez depuis 35 ans contre la précarité, le gaspillage alimentaire. Votre réseau collecte plus de 115 000 tonnes de denrées alimentaires auprès de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire, des agriculteurs, du grand public. Comment est-ce que vous vous êtes adapté et réorganisé après cette première vague, ce premier confinement, et puis enfin après cette deuxième vague et ce deuxième confinement, Claude Balland?
Eh bien, d'abord, le premier confinement nous a obligés à parfois distribuer directement, comme ça a été le cas de la distribution des colis ou des paniers à de nombreux étudiants, surtout dans la région Gironde, autour de la région Nouvelle-Aquitaine, autour de Bordeaux, ou alors de la région Occitanie, autour de Toulouse. Donc les Crous ont fait appel à nous pour que nous puissions distribuer des paniers modestes qui ne pouvaient pas retourner chez eux et qui ne pouvaient pas bénéficier des tarifs des restaurants universitaires. Donc nous avons donné, en coopération avec la Croix-Rouge, nous avons donc distribué directement aux étudiants. Et nous avons aussi distribué à une catégorie de personnes que l'on n'avait jamais vues avant, c'est-à-dire les familles qui bénéficiaient jusqu'à présent des tarifs des cantines assez bas pour leurs enfants. Mais comme pendant le premier confinement, les écoles étaient fermées, elles se sont trouvées en difficulté. Donc nous avons eu petit un de nouveau public et petit 2, pour nous adapter, nous avons dû faire appel à de nouveaux bénévoles parce que 65% des banques alimentaires, c'est-à-dire de nos bénévoles permanents, ont plus de 65 ans et légitimement à peu près 1 500 sur 6 880 sont restés chez eux ou alors on leur a demandé de ne pas venir. Et alors, nous avons eu de nouveaux bénévoles, soit des bénévoles spontanés, c'est-à-dire des gens qui étaient au chômage partiel et qui sont venus nous aider, soit certaines mairies ont mis quelques agents municipaux à notre disposition, ou alors certains centres communaux d'action sociale, comme à Châteauroux, ont mis des agents à notre disposition. Et aussi, on a beaucoup bénéficié d'étudiants qui nous renvoyaient l'ascenseur. Et les banques alimentaires. Là, on a été obligé de se réadapter et d'évoluer pour préparer ce qu'on appelle la collecte nationale qui a eu lieu les 27, 28, 29 novembre, pour diminuer les risques sanitaires pour nos bénévoles. Nous sommes parfois lancés, enfin, ça dépend des banques alimentaires, mais certaines banques alimentaires se sont lancées dans des collectes dématérialisées. Par exemple, nous avons négocié avec chacun des grands réseaux, Auchan, Leclerc, Carrefour, donc pour préparer des imprimés avec eux. Donc, on distribuait ces imprimés aux clients donateurs. Et sur ces imprimés, en bas des imprimés, il y avait des bons avec des codes barres. Donc, par exemple, à Auchan, il y avait trois types de bons, des bons à 2 euros, 5 euros, 7 euros. Donc, le client donateur ne prenait pas dans les rayons, par exemple, des boîtes de conserve pour donner après aux gilets oranges qui sont les bénévoles des banques alimentaires, ne prenait aucun produit, aucun aliment, mais arrivait à la caisse, détachait le bon qu'il avait choisi, par exemple le bon de 5 euros, et le donner à la caissière pour qu'elle scanne ce bon.
Donc, d'accord, oui, vous avez réussi à vous réadapter en fonction des mesures sanitaires.
Et notre principale adaptation, et ça c'est très nouveau pour 2020, a été de créer un site sur Internet, un site de dons, tout attaché monpaniersolidaire.org. Et les personnes qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se déplacer dans les grands magasins lors de ce dernier week-end de novembre pouvaient donner et peuvent encore donner puisque ce site reste ouvert jusqu'au 15 décembre.
Alors là, le 3 novembre, avec la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Populaire Français, vous avez salué les annonces du gouvernement et de l'Union européenne concernant l'aide alimentaire européenne, un financement doublé par l'Europe pour la France parce qu'il s'agit d'une hausse de 48% des crédits européens pour l'aide alimentaire française, donc soit 870 millions d'euros pour la période 2021-2027. Et puis lundi, le gouvernement a annoncé le lancement d'un nouvel appel d'offres de 60 millions d'euros pour l'achat de denrées alimentaires. Ce seront des aides qui seraient distribuées aux personnes précarisées par les conséquences de la crise alimentaire. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces annonces, Claude Ballon ?
Ah ben oui, quand on vous annonce une augmentation des crédits européens de l'ordre de 48%, c'est une sécurité parce que, comme vous l'avez rappelé, c'est pour le programme qui ira de 2021 à 2027. Et la dernière annonce que vous évoquez, c'est en fait l'augmentation des crédits de l'État français parce que l'Europe donne des crédits à chacun des États pour l'aide alimentaire et après chaque État abonde en fonction de ce qu'il veut donner en supplément.
Et sur les millions annoncés, combien vous seront concrètement destinés ? Et est-ce que vous pensez que ce sera suffisant face à la précarité grandissante en cette période de Covid-19 ?
Alors d'abord, il faut partager avec les trois autres grands réseaux qui distribuent l'aide alimentaire, que sont le Resto du Cœur, le Secours Populaire et la Croix-Rouge. Et après, il faut, par exemple, pour les crédits européens, c'est à l'État français de lancer des appels d'offres, des appels à marché. Et donc, je veux dire, c'est une bonne nouvelle, mais on ne bénéficie pas des produits achetés par l'Europe tout de suite. Mais on en a déjà bénéficié pour les crédits qui avaient été alloués en 2020. Ce qui nous a aidé à tenir, malgré la hausse de bénéficiaires, c'est qu'il y a eu deux subventions exceptionnelles de l'État français qu'on a appelées les subventions Covid, qui ont, rappelez-vous, une fois ça a été 38 millions, une fois 55 millions, mais c'était pas seulement pour l'aide alimentaire, mais on a eu une partie de ces crédits, et ce qui nous a permis d'acheter des aliments. Vous parliez d'adaptation. La crise sanitaire et l'augmentation du nombre des personnes que l'on doit aider nous forcent maintenant à acheter des produits, alors que la tradition des banques alimentaires, en tout cas c'était conçu au départ par les créateurs, ce n'était que de redonner des produits qu'on nous donnait à nous, qu'on récoltait gratuitement. Mais vu la hausse des besoins, on est obligé d'acheter des produits. Et maintenant, sur 100 produits que l'on distribue en un an, il y a 23% qui sont achetés par les crédits européens et par les crédits de l'État français.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Claude Ballon. Je rappelle que vous êtes le président du réseau des banques alimentaires en France. Et merci d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris.
Cet entretien continue juste après une pause musicale. Do the white joy. Et on écoutait à l'instant la chanson Corporeal de Broadcast. Merci de nous suivre sur Radio Campus Paris.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours Jusqu'à nouvel ordre sur le 93.9 FM.
Et nous recevons à présent Pierre Jotti, membre de l'association d'aide aux exilés aux migrants Utopia 56, fondée à Lorient dans le Morbihan, 56 donc aux références au département. L'association mène depuis 2015 des actions de soutien aux personnes étrangères en situation de grande précarité, que l'on appelle aujourd'hui le plus souvent, notamment dans les médias, migrants. Utopia 56 les appelle, eux, exilés, et pour ces exilés, la situation sanitaire a aussi beaucoup changé la donne. Bonsoir Pierre Jotti et merci d'être avec nous sur Radio Campus ce soir.
Bonsoir et merci de me recevoir.
Pierre Jotti, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots la mission d'Utopia 56 ?
Donc, moi je suis membre d'Utopia 56 à Paris, mais il y a plusieurs antennes. Mais notre mission première, c'est de venir en aide aux personnes exilées qui vivent en situation de précarité, donc soit à la rue, soit dans des hébergements de courte durée, soit, voilà. Et donc, nous, on vient leur accompagner un accompagnement à la fois sur le plan juridique, on essaie de répondre à leurs questions ou de les orienter vers des permanences spécialisées, et aussi sur le plan de matériel, répondre à leurs besoins essentiels, parfois en faisant des distributions de nourriture, distribution de produits d'hygiène, de vêtements, voilà.
Et d'accord, ça veut dire quoi en fait être un migrant ou un exilé, c'est le terme que votre association utilise en 2020.
Donc en fait, l'État fait une distinction entre les migrants, qui seraient plus des personnes qui viennent pour des raisons économiques, et les réfugiés, qui seraient des personnes qui viennent pour des raisons plus politiques. Parce qu'en fait, quand on fait une demande d'asile, on doit montrer qu'on a été persécuté dans son pays d'origine. Et si notre demande d'asile est acceptée, on obtient le statut de réfugié. Donc voilà, donc en fait, l'État fait la distinction entre les réfugiés politiques et les migrants économiques. Nous, on utilise le terme d'exilé pour deux raisons. D'abord, parce que ce terme explique, c'est que c'est des personnes qui ont quitté leur pays, non pas par choix, mais parce qu'elles n'avaient pas le choix et c'était trop dangereux. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le départ et surtout qui peuvent expliquer pourquoi ces personnes sont arrivées jusqu'en France. Par exemple, si on prend quelqu'un qui est parti de Côte d'Ivoire, peut-être d'abord parce qu'il cherchait du travail, donc il est parti dans un pays voisin. Et ensuite, il est passé dans plusieurs pays, dont la Libye, où peut-être cette personne a subi des tortures. Et donc là, elle pourrait être considérée comme un réfugié politique. Et donc, en fait, les histoires des personnes mêlent à la fois raisons économiques, politiques. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Donc voilà pourquoi on utilise le terme d'exilé. Et ensuite, la deuxième raison, c'est par le terme d'exilé, ça rappelle que ces personnes, ce qu'elles veulent, c'est vivre dans des conditions dignes d'abord dans leur pays. Donc, si elles pouvaient, elles rentreraient dans leur pays.
Et est-ce que vous pouvez éventuellement nous faire un petit point sur leur situation, notamment depuis le début de la crise sanitaire, ce qui a changé pour eux et puis aussi ce qui a changé pour Utopia 56 et la manière dont vous les accompagnez au quotidien dans vos actions aussi diverses soient-elles.
Donc en fait, oui, pour les personnes exilées, notamment celles à la rue, en fait, on utilisait l'expression, nous, de confiner dehors, qui est assez paradoxale parce que malgré les engagements du président de la République qui avait dit qu'il n'y aurait plus personne à la rue fin 2017, ces personnes, elles sont encore à la rue. Il n'y a pas de dispositif d'hébergement qui fonctionne dès leur arrivée, en tout cas pas pour toutes. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui étaient encore à la rue dans différents lieux, différents camps. Et donc, nous, par exemple, à Paris, on accompagnait des personnes qui se retrouvaient dans des situations très complexes où elles prenaient des amendes, où il n'y avait aucune mesure sanitaire qui était mise en place pour elles si elles étaient contaminées. Donc, en fait, ça rend la situation difficile pour ces personnes et en second lieu aussi pour nous, pour les accompagner, parce que bah, y a des freins qui nous sont mis vu la situation sanitaire pour pouvoir les accompagner au mieux.
Pour parler de l'actualité vraiment très récente, vous étiez présent sur la place de la République à Paris le soir du 23 novembre lors de l'intervention des CRS contre l'installation toute récente de 400 personnes étrangères et sans-abri. Des vidéos montraient des tentes déchirées, des personnes souvent violemment sorties donc, de ces tentes. Ces vidéos, elles ont été publiées, elles ont indigné des citoyens et un certain nombre de défenseurs des droits. Certains ont surnommé cette nuit la nuit de la honte. Déjà, pourquoi avoir mené une telle action ? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous l'avez vécu personnellement ?
Donc d'abord, reprendre l'historique. En fait, cette action, elle arrive suite à La mise à l'abri et l'évacuation ratée du camp de Saint-Denis. En fait, pour vous expliquer, le 17 novembre dernier, le camp de Saint-Denis, donc au nord de Paris, a été évacué par les forces de l'ordre. Et donc, ils s'étaient engagés à mettre à l'abri toutes les personnes qui étaient sur ce camp, ce qui n'a pas été fait. Il y a 800 à 1000 personnes qui n'ont pas pu bénéficier de la mise à l'abri et donc qui se sont retrouvées violentées par les forces de l'ordre, poussées hors du campement. Puis, on a subi des jets de gaz lacrymogène et les personnes ont été dispersées par la force et violentées. Et donc, en fait, nous, on a participé à l'organisation de cette action, mais ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine, c'est les personnes exilées qui nous ont demandé elles-mêmes de visibiliser leur situation. C'est pour ça qu'on a choisi avec elles un lieu central de Paris pour montrer qu'en fait, ces personnes, elles sont toujours repoussées hors de Paris et que en fait, on les a fait revenir au centre de la capitale pour montrer que pour visibiliser leur situation. Donc, il y a 400 à 500 personnes parmi ces 800 à 1000 qui n'avaient pas bénéficié de la mise à l'abri qui sont venues avec nous sur la place de la République. Et là, en fait, on a simplement demandé que ces personnes soient mises à l'abri. Et en fait, la réponse de l'État a été ultra violente. Et comme vous disiez, il y a des personnes qui ont été secouées de leur tente pour être sorties de leur tente alors que les forces de l'ordre arrachaient les tentes. Et en fait, il y a eu des violences énormes. Donc, les personnes ont été... l'action a été menée dans la nuit et... Non, l'occupation du campement a été faite le soir et en fait l'action des forces de l'ordre dans la nuit. Et suite à des ordres contradictoires, il y a eu plusieurs actions, chargements violents de la police qui a fini par repousser tout le monde de la place. Et en fait, on avait eu des informations comme quoi possiblement la mairie de Paris pourrait peut-être ouvrir des places en urgence. Donc, on a essayé de se diriger vers l'hôtel de ville, mais on a été chargé encore une fois par les forces de l'ordre. Simplement, cette action, c'était pour que ces personnes soient mises à l'abri, comme il aurait dû être le cas dès le 17 novembre.
Au-delà de la situation en général, donc des exilés à Paris, mais surtout en dehors de Paris, comme vous l'expliquez, il y a un point commun, plusieurs points communs entre les évacuations de Saint-Denis, de la place de la République, mais qui sont aussi liés aux méthodes qui sont employées à Calais, à Grande-Synthe, dans le nord de la France, où Utopia 56 intervient également. On a des lacérations systématiques des tentes, l'usage massif de gaz lacrymogène, voilà des violences physiques qui sont très récurrentes. Est-ce que vous avez été témoin de ces méthodes et est-ce que vous validez le fait qu'il y ait une sorte de caractère systémique dans ces méthodes?
Oui, en fait, j'ai été présent aussi à Calais où j'ai pu voir ça et c'est vrai que on dit que Calais est le laboratoire des politiques migratoires à la française avec des violences policières massives. Et là, c'est ce qu'on voit en train de se développer à Paris. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu montrer, alerter sur cette situation qui est en train de s'empirer de manière réellement préoccupante. Et donc, oui, en fait, on voit un harcèlement policier qui n'est pas seulement des bavures policières à la marge, comme on a pu l'entendre, mais c'est vraiment des violences systémiques. Et il y a même une chercheuse qui parle de crimes d'État, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est criminel, quoi. Il y a des personnes qui meurent à la rue parce qu'en fait, on leur arrache leur tente et qu'elles doivent survivre malgré le froid, malgré tout ça. Et donc, il y a des personnes qui meurent de cette politique migratoire. Donc, oui, nous, on souhaite vraiment souligner que c'est un problème systémique.
Pour conclure, à Calais, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a interdit, sur demande du maire, les distributions de repas dans le centre-ville par des associations qui ne seraient pas mandatées par l'État. Première question, est-ce que vous êtes mandaté? Et deuxième question, quel impact ça a concrètement, cet arrêté, sur l'action des associations comme Utopia aujourd'hui?
Donc nous, déjà, non, on n'est pas mandaté. On est une association qui refuse toute subvention de l'État parce qu'on considère qu'on doit avoir une position qui nous permette de critiquer quand l'État ne fait pas son travail, et c'est le cas actuellement. Et donc à Calais, en fait, on se retrouve empêché de faire des distributions de nourriture alors que c'est des personnes qui ont faim, quoi. En fait, vraiment, le problème, c'est que les personnes ont faim et que les distributions d'associations mandatées ne suffisent pas parce que, par exemple, elles sont à des endroits où il y a des compagnies de CRS proches. Donc, pour les personnes, ça peut être une situation très difficile. Elles ne vont pas se rendre à la distribution si c'est risqué pour elles parce qu'elles vont se faire arrêter. Donc, en fait, les associations et celles qui sont non mandatées comme qui ne sont pas mandatées comme Utopia 56, elles vont là où il y a le besoin. Contrairement à des associations qui sont payées par l'État, elles vont là où l'État leur dit, où la mairie leur dit. Alors qu'Utopia 56 peut se permettre, vu que c'est par des dons de citoyens, d'aller là où il y a le besoin. Et donc, c'est très clairement une atteinte très grave à la dignité de ces personnes que de refuser qu'on puisse leur donner à manger.
Porque nací berraquita, la fuerza corre en mi sangre, la sangre de mis ancestras son las mujeres bellonas que han luchado para sobrevivir. A mí me gusta por ser mujer, pero yo nací en este cuerpo. No lo escogí ni sé qué hacer. Esto está fuera.
Écoutez à l'instant Pelada avec la chanson A mí me juzgan por ser mujer. Merci de nous écouter sur le 93.9 FM.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Quand j'étais enfant, je voulais devenir un agent secret. l'agent 007, ou dans un côté plus girly, les trois espions de la série animée Totally Spies, les espions étaient mes héros. À cette époque-là, je rêvais d'avoir une vie pleine d'aventures. Mais ce qui m'émerveillait encore plus que leur quotidien hors normes, c'était les divers gadgets qui les aidaient à mener à bien leurs enquêtes. En grandissant, cet émerveillement a été remplacé doucement par une certaine anxiété qu'un adulte averti peut acquérir en observant les progrès technologiques de ces dernières années, notamment l'intelligence artificielle. Certaines inventions semblent directement sorties d'un film d'espionnage. Parmi celles-ci, j'aimerais vous parler aujourd'hui des lentilles de contact intelligentes.
Je suis désolée de t'interrompre, mais ceci n'est pas un nouveau concept. La course au développement des lentilles intelligentes a été lancée depuis un moment.
J'en suis consciente, mais sauf erreur, c'est la première fois que je vois une date de sortie pour ce genre d'objet. Pour les lentilles Eyelens, un lancement est prévu l'année prochaine par la boutique en ligne Lens Store. Vous pouvez d'ores et déjà manifester votre intérêt pour ces produits sur leur site internet.
Avant de faire cela, j'aimerais savoir quelles fonctionnalités elles peuvent nous apporter. Pourrais-tu nous en parler un peu plus en détail ?
Avec plaisir. Parmi ces options, certaines semblent assez triviales, comme la possibilité de changer la couleur des yeux selon votre envie grâce à une application sur smartphone. Mais il y a des propositions de paramètres plus avancés, comme l'intégration de la réalité augmentée. Cela veut dire que vous seriez capable de faire défiler des informations directement devant vos yeux. La météo, la qualité de l'air, le nombre de squats ou de pas que vous faites pendant votre activité physique, ou même des informations, coronavirus oblige, relatives à la distanciation sociale à respecter dans l'espace public.
Cela me semble assez pratique.
Je suis d'accord. Une autre option qui aborde l'un de mes problèmes, une alerte qui préviendra l'utilisateur lorsqu'il aura passé trop de temps devant un écran pour qu'il puisse faire une petite pause afin d'éviter toute fatigue oculaire.
Pour le moment, je ne vois que des points positifs.
Oui, parce que j'ai laissé le meilleur pour la fin. Associée à un smartphone en Bluetooth, ces lentilles seraient notamment capables d'enregistrer des vidéos, sauvegarder des données et les partager. Nous pourrions nous dire « Enfin, nous l'attendions cette mémoire parfaite, plus rien ne passera à la trappe. » Mais moi, cela m'effraie. Maintenant, rien ne sera oublié. Vous imaginez-vous être capable de se souvenir de tout, même de toutes vos gaffes? Quelle horreur! Je me rappelle d'un épisode de Black Mirror intitulé « Retour sur image » où certains individus ont accès à une technologie semblable. Un jeune avocat nommé Liam est à la recherche d'un emploi. Après un dîner chez des amis de sa femme, il se met à douter de sa fidélité. Il utilise donc les images en sa possession pour enquêter sur ses supposés adultères. Je ne vais pas vous spoiler, mais je vous préviens, la fin n'est pas très joyeuse. Et si ces lentilles étaient utilisées par des voyeurs, des couples séparés pour du revenge porn ou d'autres voyous dont les intentions nous dépassent?
D'accord, nous avons compris. C'est effrayant.
Et j'allais oublier, un tel objectif sera directement intégré à la lentille permettant de zoomer jusqu'à 60 fois. Évidemment, j'encourage mon chirurgien à l'adopter, mais je décourage mon voisin pervers de s'en servir comme des jumelles. Pour terminer, j'ai laissé une plutôt bonne nouvelle. Ces lentilles permettront de voir parfaitement dans le noir comme un chat et éviter les obstacles en rentrant de soirée. Pas bête, non? Cependant, le concept de ces lentilles reste tout de même assez obscur, on ne connaît ni son caractère ni son prix. Nous devrions y voir plus clair en 2021.
Merci Alexandra.
Jusqu'à nouvel ordre, du lundi au jeudi à 19h sur Radio Campus Paris.
Ils étaient officiellement plus de 130 000 partout en France samedi dernier à manifester leur colère contre la loi Sécurité Globale. Et vous avez sûrement vu les images à Paris d'une place de la République bondée, comme au temps où le Covid-19 n'existait pas. C'est le point de départ de ce reportage réalisé par Léa Hurel, membre de la rédaction de Radio Campus Paris, mais aussi étudiante en école de journalisme. Des écoles mobilisées dans un cortège inédit qu'elle a suivi pour nous.
On va pas se laisser faire.
On est place de la République et quand je dis on, c'est les étudiants en école de journalisme et plein d'autres gens pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la loi sécurité globale qui va bafouer nos libertés et nous, futurs journalistes, nous empêcher de faire notre taf.
Il est 14h30 et Selma avance fièrement en serrant contre elle le grand morceau de tissu blanc décoré de slogans qu'elle a fabriqué avec ses amis la veille. La foule est dense sous le regard de la très symbolique statue de la République. Mais ce cortège d'une trentaine d'étudiants et d'étudiantes se fait remarquer. Déjà, une nuée de portables se dresse pour prendre en photo le collectif inter-école.
Alice qui gueule dans le micro nous a réunis à lancer un groupe Facebook. Et du coup, on a fait une banderole. On a parlé à tous les gens qu'on connaissait en école de journalisme. Et du coup, on est quelques-uns Et c'est pas mal. C'est important qu'on soit tous réunis parce qu'on est tous, on est tous concernés. On va tous être journalistes en mars ou en juin. On va tous avoir envie de filmer les manifs, de filmer tout ce qui se passe. Et si on ne peut pas filmer la police, on ne peut pas filmer la réalité de notre société.
La dame qui marche à côté de Selma n'a, elle, pas l'allure d'une étudiante. Équipée d'un béret en feutrine, d'une doudoune colorée et de grosses baskets de marche, il s'agit de Pascale Collisson, une ancienne journaliste. Elle est surtout responsable pédagogique depuis 9 ans à l'école de Paris-Dauphine. Donc cette profession, elle l'a vue se transformer. Droit à l'image, éthique journalistique, mais aussi reconnaissance des minorités et remise en question du traitement médiatique. C'est justement pour que ces débats continuent qu'elle est venue soutenir cet après-midi l'engagement de ses élèves.
Moi, je remarque que cette jeune génération, et en particulier les jeunes journalistes que j'ai la chance d'accompagner, sont très sensibles à ces questions, mais au-delà de la sensibilité et du ressenti, ils ont aussi beaucoup, beaucoup d'éléments de compréhension, de contextualisation. Ils sont formés aussi sur ces questions intellectuellement. Et en tout cas, le fait que dans une école, ils se posent ces questions-là avant de commencer à pratiquer leur métier, moi, ça me paraît très, très intéressant.
Ça y est, le cortège a enfin quitté République et continue tranquillement sa route vers Bastille. La foule est désormais moins compacte et ça permet à Margot de recommencer à zigzaguer entre les gens, casquette vissée sur la tête et appareil photo collé à son visage. Être une bonne journaliste, pour elle, ça signifie se confronter au terrain et montrer les dysfonctionnements de la société. Si parfois, souvent même, elle doute de son avenir dans ce milieu où les conditions de travail se dégradent, Margot choisit de garder le cap.
Je choisis de continuer parce que juste informer les gens, c'est essentiel. Et toutes ces histoires de violences policières, il faut les montrer. Et sans photos, sans vidéo, pas d'affaire Benalla, pas d'affaire du Burger King pendant les Gilets jaunes, trop important. Et pas d'affaire de Michel Zecler, en fait, tout simplement. Donc trop important de continuer ça, et juste, on lâchera pas. Et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, tous et toutes là aujourd'hui.
Julien aussi étudiant, mais lui, c'est en archéologie. Donc rien à voir, ou presque. Parce que s'il est là aujourd'hui, coincé au milieu des pancartes et des gens masqués, c'est justement par fidélité au journalisme. Avec deux parents qui exercent ce métier, venir manifester contre cette loi était une évidence.
Je trouve ça vachement bien parce que vous êtes les journalistes de demain. Là, je vois qu'il y a mon père qui discute avec des étudiants en journalisme. Et je trouve que c'est une belle passation entre les générations. Et j'espère que symboliquement, ça va avoir du poids, que ça va rester dans l'histoire. Et je pense que c'est assez... symbolique, voilà, d'une France qui défend ses valeurs, les valeurs des Lumières, les valeurs de liberté.
Cette journée s'achèvera sur des affrontements entre les manifestants et les CRS. Mais avant ça, notre cortège d'apprentis journalistes terminera, lui, son trajet en musique. Et avec un peu de chance, ce sera votre tour de les croiser à la prochaine manifestation.
Jusqu'à nouvel ordre est à présent terminé. Je remercie nos invités et nos bénévoles qui ont littéralement fait battre le cœur de cette émission. Merci à Anaïs pour la coordination, à Nolwenn et Glenn pour avoir mené l'entretien, à Alexandra pour sa chronique, à Léa pour son reportage, et merci à Fichon qui a monté l'intégralité de cette émission. Quant à nous, j'espère vous retrouver la prochaine fois dans nos studios. Bonne fin de semaine, chers auditeurs, et à tantôt.